Vous écoutez France Culture, il est 12h30. Le journal de la rédaction vous est présenté par Anne Fauquemberg. Bonjour.
Bonjour Géraldine, bonjour à tous. Elle ne veut pas être l'alibi de la tragédie humaine qui se joue en Syrie. L'ex-procureur spécialiste du crime de guerre, Carla Del Ponte, démissionne de la commission d'enquête indépendante de l'ONU dans le pays. Valérie Crova a pu joindre la magistrate ce matin qui s'explique de cette décision. C'est une visite extrêmement rare. Le président jordanien Abdallah II vient d'arriver en Cisjordanie. Il rencontre en ce moment même le président de l'autorité palestinienne. Visite tout en symbole, 3 semaines après la crise sur l'esplanade des mosquées, va nous dire Marie Semelin. À Manille, au Forum régional sur la sécurité, l'attitude de défi de la Corée du Nord, 2 jours après le vote de nouvelles sanctions, récit à suivre d'Éric Biegala. En France, comment Airbnb échappe à l'impôt? Le journal Le Parisien s'émeut des seuls 93 000 euros de taxes payées par la société américaine en 2016. Explication de Marina Capitaine dans un instant. Et puis Emmanuel Macron reçoit en ce moment même les syndicats d'agriculteurs dans le cadre des assises de l'alimentation. Les revendications portent toujours sur la répartition des aides européennes entre les deux piliers de la PAC, précision de Camille Magnard à la fin de ce journal. Au sommaire de la grande table d'été, Géraldine Mosna-Savoie.
Eh bien, on programme un non-anniversaire en première partie, alors que l'urinoir de Marcel Duchamp fête bien ses 100 ans, nous nous demanderons si l'art contemporain est bien l'héritier du fameux ready-made. Puis en seconde partie, portrait du réalisateur Guillaume Braque à l'occasion de la présentation de son film diptyque Conte de juillet au 70e festival de Locarno qui a lieu en ce moment même jusqu'au 12 août.
Merci Géraldine et à tout à l'heure, 12h45. Elle était chargée d'enquêter sur l'usage d'armes chimiques en Syrie, le massacre des yézidis ou encore le bombardement de convois humanitaires. Carla Del Ponte, l'ancienne procureure du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie ou encore le Rwanda, démissionne de la commission d'enquête indépendante de l'ONU sur la Syrie. Commission créée en 2011 qui émet des rapports réguliers sur les violations des droits de l'homme par le régime de Bachar al-Assad. Commission qui n'est visiblement pas assez entendue par le Conseil de sécurité de l'ONU. C'est ce que dénonce en tout cas la magistrate. Âgée aujourd'hui de 70 ans. Elle s'en est expliquée ce matin avec Valérie Crova.
La commission, dans la 7e année de travail, n'a plus un sens. Ces commissions, normalement, ils font des premiers rapports après une année et le Conseil de sécurité décide quoi faire. Tandis qu'ici, cette commission doit continuer à travailler, donc à faire la liste des crimes qui sont commis en Syrie. Et il y en a chaque jour, de tous les côtés, de tous les partis à la guerre. Mais le Conseil de sécurité ne prend aucune décision. Alors moi, j'estime, en tant qu'ancien procureur, que dans la 7e année, je ne veux plus rester dans cette commission, qui n'a plus un sens. Elle l'avait au début, les premières années, si vous voulez. Mais dans la 7e année, le Conseil de sécurité doit agir.
Il y a des blocages au Conseil de sécurité, on sait qu'il y a le veto des Russes.
Oui, surtout le droit de veto des membres permanents, les Russes, oui, qui sont soutenus aussi pour la Chine. Et puis, ça ne passe pas, il n'y a pas de résolution qui passe, donc il n'y a pas de justice pour les victimes. En Syrie, il y a une impunité totale depuis 7 ans.
Il y a eu pourtant des rapports qui ont été faits sur les violations des droits de l'homme.
Chaque 6 mois, on fait un rapport au Conseil des droits humains. Chaque 6 mois, on demande justice pour les victimes. Rien ne se passe. Alors, c'est pour ça. Maintenant, moi, je m'en vais.
Vous connaissez particulièrement la difficulté de poursuivre les auteurs de crimes de guerre. Est-ce que vous pensez qu'un jour, ceux qui ont commis de tels crimes en Syrie seront jugés par un tribunal international?
Oui, je l'espère vivement. Ce ne sera pas pour demain, mais je l'espère vivement qu'on arrivera à pouvoir juger les responsables, oui, les hauts responsables politiques et militaires.
Carla Del Ponte, l'ancienne procureure du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda, était avec Valérie Crova. 2 commissaires restent à la tête de cette commission indépendante de l'ONU sur la Syrie, commission qui annonce la poursuite de son travail. 3 semaines après la crise sur l'esplanade des mosquées qui a vu se soulever des milliers de Palestiniens, le roi jordanien Abdallah II vient d'arriver à Ramallah en Cisjordanie pour rencontrer Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne. Les deux hommes ne se sont pas vus depuis plusieurs années et cette rencontre sonne comme un avertissement à l'égard d'Israël. À Jérusalem, c'est une correspondance de Marie Semelin.
Une arrivée en hélicoptère et quelques heures sur place, la visite était claire, mais son symbole est aussi important que le contenu de la rencontre. Une dizaine de jours après la fin de la crise autour de l'esplanade des mosquées, le roi est un des vainqueurs de ce bras de fer. La Jordanie est la gardienne des lieux saints musulmans de Jérusalem, opposée dès le départ aux détecteurs de métaux à l'entrée du site que souhaitait installer Israël. Dans un pays composé en majorité de réfugiés palestiniens, le roi connaît l'importance de cette question pour son opinion publique et il vient d'allouer plus d'un million d'euros à la fondation jordanienne en charge de l'esplanade des mosquées, une manière de rappeler à Israël qui en est le responsable et son soutien aux Palestiniens. Mais dans ce déplacement, il y a aussi celui que le roi de Jordanie ne va pas voir, le premier ministre israélien. Aucune rencontre n'est prévue avec des officiels de l'État hébreu. Pourtant, pour Israël comme pour la Jordanie, leur relation diplomatique est précieuse. Mais l'obstination récente du premier ministre israélien Benjamin Netanyahou sur Jérusalem a irrité le royaume et à cette crise s'en est ajoutée une autre quand dans l'ambassade israélienne de Amman, un garde a tué deux Jordaniens avant d'être accueilli en héros par le premier ministre israélien. Ces deux événements ont laissé des traces et depuis trois semaines, les relations entre les deux pays sont tendues. En se rendant dans les territoires palestiniens, le royaume peut vouloir rappeler à Israël qu'il est un allié central avec l'Égypte, le seul pays arabe officiellement ami d'Israël, et un interlocuteur incontournable dans une éventuelle reprise du processus de paix israélo-palestinien.
Correspondance de Marie Semelin à Jérusalem. Les présidents sud-coréens et américains se sont entretenus au téléphone ce matin. Moon Jae-in et Donald Trump se sont mis d'accord pour exercer le maximum de pression sur la Corée du Nord. Et cela deux jours après le vote de nouvelles sanctions au Conseil de sécurité de l'ONU. La Corée du Nord qui poursuit son programme balistique et nucléaire en dépit des interdictions internationales. Alors ces sanctions donnent lieu aussi à un intense ballet diplomatique depuis hier à Manille au Forum régional sur la sécurité organisé par les pays de l'ASEAN, l'Association des Nations du Sud-Est Asiatique, et d'autant plus que Pyongyang a droit de citer dans ce forum. Bonjour Eric Biegala.
Bonjour.
Pyongyang réagit de manière virulente.
Oui, comme à son habitude, la réaction de Pyongyang aux sanctions votées ce week-end n'a pas fait dans la nuance. Les nouvelles sanctions constituent, je cite, « une violation violente de notre souveraineté », a déclaré le régime dans un communiqué publié par son agence de presse officielle ce matin. « Nous ne mettrons pas notre programme de dissuasion nucléaire sur la table des négociations et nous ne reculerons pas d'un pas s'agissant du renforcement de notre puissance nucléaire. Alors certes, les nouvelles sanctions imposées samedi, et cette fois votées à l'unanimité des 15 membres du Conseil de sécurité, risquent clairement, si elles sont effectivement mises en œuvre par les membres de l'ONU, notamment la Chine, de plomber les déjà maigres ressources de la Corée du Nord. Ces sanctions interdisent par exemple toute importation de fer, de cuivre ou tout produit de la pêche en provenance de la Corée du Nord. Aucun nouveau permis de travail ne sera plus délivré pour les travailleurs nord-coréens à l'étranger. Plus aucun partenariat commercial ne sera possible avec les sociétés nord-coréennes. Par ailleurs, 9 personnalités sont dorénavant frappées d'interdiction de voyage et 4 institutions voient leurs avoirs à l'étranger gelés, notamment la banque de commerce à l'étranger de Pyongyang par laquelle transite la plupart des échanges commerciaux du pays. Toutes ces sanctions pourraient obérer d'un bon tiers les 3 milliards de dollars annuels de revenus que la Corée du Nord obtient grâce à ses exportations. Mais au-delà des réactions virulentes de Pyongyang qui refuse donc pour le moment de s'asseoir à une quelconque table de négociation, une possible ouverture a toutefois été présentée tant par la Chine que par les États-Unis et à peu près dans les mêmes termes, les deux puissances ont indiqué séparément au régime nord-coréen que le meilleur moyen pour lui de relancer les discussions serait qu'il suspende tout simplement tout test nucléaire ou tir de missile. C'est le tir par la Corée du Nord de 2 missiles balistiques en juillet d'une portée suffisante pour toucher les États-Unis qui a entraîné le dernier train de sanctions aux Nations Unies.
Merci Eric Biegala pour vos précisions. En Mauritanie, au terme d'une campagne houleuse, le oui l'a finalement emporté à l'occasion du référendum constitutionnel organisé le week-end dernier. 1 400 000 électeurs devaient dire s'ils étaient favorables ou non au remplacement du Sénat par des conseils régionaux élus et à une modification du drapeau national, drapeau auquel devraient donc être ajoutées 2 bandes rouges en guise de référence à la résistance contre la colonisation française. Taux de participation 36% dans la capitale Nouakchott, 80% dans les zones rurales. L'opposition parle de coup de force du président Mohamed Ould Abdel Aziz. C'est une somme dérisoire comparée aux chiffres d'affaires de la société américaine en France. Selon le journal Le Parisien, aujourd'hui en France, Airbnb n'aurait payé que 92 944 euros d'impôts l'an passé dans le pays. C'est peu par rapport aux plus de 60 millions d'euros de chiffre d'affaires de l'entreprise. Bonjour Marina Capitaine.
Bonjour.
Selon le quotidien, Paris est pourtant la première ville au monde en termes de petites annonces de location d'appartements. Mais Airbnb est le champion de l'optimisation fiscale.
Oui, Airbnb n'est pas basé à Paris. Missouri, mais dans le Delaware, état américain connu pour être un véritable paradis fiscal. Et son siège européen est en Irlande, pays très attractif pour les entreprises internationales, puisqu'elles y trouvent l'impôt sur les sociétés le plus faible d'Europe. Donc c'est légal, mais est-ce éthique? Non pour Jean-Paul Paulin, professeur à l'Université d'Orléans. Il est membre du cercle des économistes et voit dans cette affaire un capitalisme sauvage, mais bien difficile à combattre.
La législation elle-même n'est pas au point et donc il faudrait la construire. Or, vous comprenez bien que les intérêts des différents pays sont différents. Il y a longtemps que l'Irlande, faisant partie même de la zone euro, est accusée de faire du dumping fiscal et néanmoins, les choses n'avancent pas. Alors imaginez si maintenant on veut faire une juste répartition des choses avec le Delaware qui est effectivement un des États américains considérés comme un des grands paradis fiscaux au monde.
Airbnb assume et estime faire du bien à l'économie française en favorisant les séjours touristiques et donc les dépenses qu'ils engendrent, sorties au restaurant, shopping, transport, etc. Mais ce soi-disant bénéfice n'est pas chiffrable et Airbnb rejoint la liste des géants du web qui posent problème au fisc français comme Google ou Amazon.
Alors justement, le candidat Macron avait évoqué la lutte contre l'optimisation fiscale pendant sa campagne.
Et pour lui, la solution serait une taxe sur le chiffre d'affaires réalisé en France par ces sociétés. Mais c'est un combat à mener au niveau européen et il sera compliqué de mettre tout le monde d'accord sur ce sujet. L'Irlande, par exemple.
Merci Marina Capitaine pour vos explications. C'est l'un des autres chantiers du quinquennat Macron. Les états généraux de l'alimentation se sont ouverts au début du mois dernier. Objectif, aider les agriculteurs à mieux vivre de leur travail. Dans cette perspective, Emmanuel Macron reçoit la plupart des syndicats de cultivateurs aujourd'hui à l'Élysée. Bonjour Camille Magnard.
Bonjour Anne.
Le principal syndicat, la FNSEA, a été reçu en amont. C'est donc au tour des plus petits syndicats de se faire entendre avec notamment des revendications sur le plan des aides européennes. Le chef de l'État veut en effet modifier l'attribution de ces fonds.
Oui, c'est le ministre Stéphane Travert qui l'a confirmé la semaine dernière. 4,2% des aides du premier pilier de la politique agricole commune vont être réorientées vers le deuxième pilier. En gros, ça veut dire que quelques centaines de millions d'euros sont pris aux grosses exploitations qui bénéficient d'une aide, d'une prime à l'hectare pour reverser cet argent aux plus petites en agriculture bio, en conversion ou encore en zone de montagne. Alors d'un point de vue de communication politique, on est en plein dans le credo du gouvernement qui veut favoriser une agriculture durable, mais en fait la mesure ne plaît à aucune des organisations agricoles reçues ce matin. Les tenants du bio la trouvent trop timorée, même pas en mesure de compenser les baisses d'aides publiques versées par les régions. Les autres, ceux qui bénéficient du premier pilier de la PAC, rejettent le principe même de déshabiller Pierre pour habiller Paul. Lui s'appelle Jérémy Deserle. Il est le président des jeunes agriculteurs et il a été le premier à être reçu tout à l'heure à l'Élysée.
C'est pas la solution. Ma foi, il y a eu une mauvaise gestion budgétaire. Il manque 800 millions d'euros. Bon, ma foi, quand on fait des erreurs, on essaye de les rattraper du mieux possible. Donc, ce qu'on lui a demandé, c'est qu'on retravaille dès à présent sur des solutions alternatives. Donc, entre l'État, les régions de France et puis peut-être d'autres qui pourront venir accompagner financièrement tout ça, eh ben, il faudra qu'il y ait une coordination et du travail qui soit vite entrepris.
Et puis, plus généralement, les organisations agricoles reçues à l'Élysée ce matin avaient un message à faire passer au président. Elles veulent des garanties que leur voix sera bien entendue dans les ateliers de travail des états généraux de l'alimentation qui vont se dérouler jusqu'au mois de novembre. Plus de poids donc face à la FNSEA et aux grands groupes de l'agro-business pour élaborer des solutions qui permettront par exemple de mieux rémunérer le travail des agriculteurs qui font le choix de la qualité. Les représentants des agriculteurs ont quelques soucis à se faire en la matière. L'atelier des états généraux consacré justement à la crise des prix agricoles est présidé par Danone et par le distributeur Système U.
Merci Camille Magnard pour votre éclairage. Enfin, c'est une affaire hors norme, mais aussi sordide, qui sera jugée cet après-midi au tribunal correctionnel de Grasse, dans les Alpes-Maritimes. Un concierge de 47 ans est accusé d'avoir téléchargé pendant plusieurs années 24 000 vidéos au total, dont un grand nombre de vidéos pédopornographiques. Le quadragénaire a été arrêté au début du mois dernier. Il est actuellement en détention préventive. L'association L'Enfant Bleu s'est portée partie civile, association qui lutte contre la maltraitance enfantine. Le secrétaire général Michel Martzloff attend des réponses sur la possibilité d'un réseau derrière cette personne. Il est avec Valentin Dunat de France Bleu Azur.
Je sais que la police enquête sur la possibilité d'un réseau parce qu'évidemment un individu tout seul ne peut pas exploiter une bibliothèque aussi énorme de monstruosité comme ça. On est vraiment face à quelque chose d'exceptionnel et de monstrueux. Les gens qui utilisent ce genre de support sont des gens qui ne ressentent pas vraiment la gravité de l'acte qu'ils sont en train de commettre, surtout qu'en fait, ils valident, si vous voulez, la reproduction de ces images, puisque si personne ne les regardait, il n'y en aurait pas. Hein. Et en l'utilisant et en les transmettant et en organisant des réseaux, finalement, ils sont complices de ces horreurs qui peuvent se voir sur le net.
Propos recueillis par Valentin Dunat de France Bleu Azur. La météo de ce début de semaine est radieuse. Quelques passages nuageux néanmoins cet après-midi en Bretagne et en Normandie. Risque d'orage également dans le Lot-et-Garonne, en Gironde et en Dordogne. Et les températures, il fera 24 à Lille et Bordeaux, 27 à Paris, 28 à Strasbourg et jusqu'à 30 degrés à Marseille et Ajaccio. Journal préparé avec François-Charles Domergue. À la technique, c'était Alexandre Dang.